Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la Presse, l'émission qui reçoit des journalistes de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du forum de ce soir, levé par le gouvernement du Niger de la mesure d'interdiction des prières collectives sur l'ensemble du territoire nigérien et du couvre-feu sur la ville de Niamey à compter du mercredi 13 mai 2020. Célébration mercredi 13 mai dernier de la journée nationale de la femme nigérienne décrétée depuis le 25 novembre 1992 au Niger. Enfin, attaque samedi passé par des groupes armés non étatiques de trois villages de la commune rurale d'Anzourou, région de Tillabéri, et à Difa, une riposte de l'armée nigérienne lundi 11 mai a permis de neutraliser des éléments de Boko Haram. Pour en discuter, nous avons invité nos confrères Maimouna Diado, journaliste à la télévision Tambara. Maimouna, bonsoir.
Bonsoir.
Issa Morumadougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa, bonsoir.
Bonsoir Alassane.
Et nous avons au téléphone Elhaj Souleymane Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Elhaj Souleymane, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangu de ce vendredi 15 mai 2020. Nous débutons ce forum par l'allègement des mesures de prévention du COVID-19 par le gouvernement nigérien, ainsi sur proposition des chefs religieux, après consultation du comité d'experts COVID-19 et au vu de la tendance favorable de l'évolution de la maladie à COVID-19, le gouvernement a décidé de la réouverture des lieux de culte à compter du mercredi 13 mai 2020 sur toute l'étendue du territoire national et la levée du couvre-feu à Niamey à la même date. L'on pouvait lire dans le communiqué du gouvernement que ce dernier demande en conséquence au gouverneur, au préfet et au maire de veiller à ce que les chefs religieux exigent des fidèles le respect des mesures barrières minimum ci-après. Lavage des mains au savon ou l'usage du gel hydroalcoolique, désinfection des lieux de culte avant chaque prière, aération des locaux pendant les prières, port du masque, utilisation de tapis individuels pour les fidèles musulmans, observation de la distanciation d'au moins un mètre, éviter de se serrer les mains lors des salutations, abstention de se rendre au lieu de culte pour toute personne qui présente des symptômes tels que la fièvre, la toux, le mal de gorge, les douleurs articulaires ou musculaires et les difficultés respiratoires, et libération également des lieux de culte aussitôt la prière terminée. Je commence avec vous, Elhaj Souleymane Mahamadou du journal en ligne Niger Inter. Vous êtes en ligne avec nous. Quelle appréciation vous faites de cette décision du gouvernement? Vient-elle à point nommé, à votre avis, ou pas?
Je pense que cette mesure vient à point nommé quand on sait que l'on s'achemine vers la dernière décade du mois de Ramadan où véritablement les fidèles musulmans aimeraient bien profiter de ces derniers jours au regard des promesses, des attentes de leur foi, de leur pratique religieuse. C'est un moment d'intense prière. Donc le fait que les mosquées, les lieux de culte soient ouverts, je pense que la mesure, on l'a constaté, est venue vraiment, elle est très salie, en tout cas elle est bien accueillie, il y a un ouf de soulagement. Maintenant, l'autre aspect, est-ce que véritablement les conditions pour respecter les mesures barrières sur l'antenne réunie? Moi, je suis très pessimiste parce que quand je considère certaines mosquées qui sont très exiguës, certains fidèles qui ont les moyens de construire les mosquées trouvent vraiment les mosquées sont vraiment très petites. Vous voyez, demander de respecter les distances d'un mètre dans une mosquée qui ne fait pas plus de 3-4 mètres, vous voyez, c'est compliqué. Franchement, je pense que le risque me paraît évident parce que tout simplement, vous savez, les habitudes. Je veux dire que les mesures barrières On fait appel au comportement, aux habitudes, et vous voyez, tout ce qui est nouveau a tendance à ne pas être appliqué de manière, en tout cas, c'est pas facile de dire. En résumé, moi, je pense que la demande du gouvernement me semble assez un peu spéculative. Quels moyens disposeront les gouverneurs, les préfets pour respecter cela? Est-ce que aussi le gouvernement a prévu les moyens, les gels, les masques au niveau...
aussi de lavage de mains.
Le lavage de mains. Tout cela, vraiment, il n'y a que tout simplement peut-être les imams doivent être sensibilisés à appeler les fidèles.
Nous revenons pour le moment en studio pour faire déjà ce premier tour de table. Maimouna Diado, alors vous avez vu ce gouvernement finalement, en tout cas beaucoup de Nigériens ont décrié ces mesures qui étaient étrangères, dont les gens n'étaient pas habitués. Et finalement, le gouvernement a allégé davantage ces mesures de prévention contre le COVID-19, notamment la réouverture des lieux de culte. Comment vous appréciez cette décision du gouvernement? Tout en sachant que le nombre de contaminations, en tout cas les contaminations continuent.
Ce que je pourrais dire par rapport justement à la réouverture des mosquées et des maisons de culte, c'est que c'est salutaire d'abord. Il faut reconnaître que c'est une décision en tout cas salutaire, mais la décision aurait pu tomber bien avant. Le dernier décade,
la dernière décade
autant du mois de Ramadan. Et que, en fait, parce que les musulmans l'attendaient depuis la veille du mois béni de Ramadan. Voilà. S'il y a des mesures à prendre, si c'est les mêmes mesures de prévention qu'on devrait prendre,
pratiquement.
Donc je ne voyais pas, en fait, le problème de fermer les mosquées. Depuis le début, on pouvait sensibiliser les imams, on pouvait sensibiliser la population, les musulmans, par rapport donc à ces mesures préventives.
Et tout à l'heure, on a entendu Alain Suleiman qui s'est posé vraiment la question de savoir est-ce que on peut vraiment arriver à respecter, à faire respecter ces mesures dans les mosquées.
Je suis sûr que même le gouverneur de la région de Niamey, ou bien le maire de la ville de Niamey ne peuvent pas savoir aujourd'hui combien de mosquées il y a à Niamey, seulement. Et comment est-ce que peut-être on peut également vérifier au niveau de toutes ces mosquées qui se trouvent à Niamey si ces mosquées sont en train de suivre les consignes? Ça serait un peu difficile. Ça serait très difficile aujourd'hui que moi, par exemple, ou bien quelqu'un, par exemple, un fidèle musulman, se pointe devant une mosquée pour prier, parce que ce n'est pas tout le monde qui circule aujourd'hui de Niamey avec un tapis de prière. Je suis sûr que à la première occasion, le musulman qui entend l'appel
de la prière,
mais il va d'abord vouloir prier. Mais dans quelles conditions? S'il n'a pas de tapis de prière, est-ce qu'on va l'empêcher de prier? C'est ça le problème, parce qu'il ne faut pas oublier le social aussi. Le social est là.
Donc
ça sera très difficile le respect des mesures. Et ça sera très difficile pour un imam aujourd'hui d'avoir tout le monde avec lui, de sensibiliser ses fidèles musulmans qui viennent pour la prière. Et ça sera très difficile, comme l'a dit Elhaji, de mettre une distance de 1 mètre quand on sait que les mosquées,
certaines mosquées sont exiguës.
Donc c'est très difficile. Je pense que le gouvernement doit encore revoir certaines mesures et aller vers la sensibilisation. Ça, c'est la sensibilisation seulement qui peut arranger les choses, je pense bien.
Alors, Issa Madougou, le gouvernement qui libère, en tout cas qui permet la réouverture des lieux de culte, qui lève le couvre-feu qui pèse sur Niamey depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez aussi, vous partagez les mêmes craintes et les mêmes doutes des autres confrères par rapport au respect strict des mesures de prévention du COVID-19 dans ces lieux de culte?
Merci Alassane. À entendre le comité et le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement, c'était sur proposition. Et ça suppose que avant que les leaders religieux fassent cette proposition, ça a été longuement réfléchi si vraiment les uns et les autres peuvent mettre en jeu leurs responsabilités pour pouvoir honorer ces engagements, parce que la réouverture des lieux de culte a été conditionnée par le respect des mesures barrières au niveau de ces lieux de culte, que ce soit les églises et les mosquées. Vous savez, la question religieuse, toute question qui touche la religion est sensible,
très sensible.
Au Niger et susceptible de mauvaises interprétations. Cela aujourd'hui, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est que avec la pandémie du Covid-19, tout le monde sait qu'aujourd'hui c'est une réalité. C'est pas que les gens sont en train de mentir ou bien on veut mener les gens en bateau, mais la maladie est là, c'est une réalité.
Elle existe.
Si l'État aujourd'hui a voulu lever parmi tant toutes ces mesures, deux mesures, ça ne veut pas dire aussi que la maladie s'est terminée et qu'on a pu rompre la chaîne de contamination.
En tout cas, chaque soir, la chaîne le décompte continue, chaque soir, on a des nouveaux
cas. On n'a pas pu rompre quand même jusque-là la chaîne de contamination. Mais c'est qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les gens s'y mettent à comprendre qu'on va faire avec comme les autres pays, continuer à vivre avec cette maladie comme on vit avec d'autres maladies aussi dangereuses que cette maladie. Mais il faudrait, comme Alage a dit un aspect, c'est la communication. Il faut communiquer pour que les gens prennent conscience, que les gens soient responsables de leurs actes. Les marabouts, les préfets, les maires ne peuvent rien changer. Nous connaissons un peu la mentalité des gens. Mais il faut aussi mettre en jeu leurs responsabilités. Qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, qu'ils ont un rôle à jouer. Chaque fidèle, que ce soit un fidèle musulman, un fidèle chrétien, qui fréquente un lieu de culte, suppose à être d'abord un ambassadeur contre de bonne volonté ou bien un ambassadeur contre la maladie du coronavirus. Est-ce qu'on connaît le nombre exact de lieux de culte à Niamey?
Toutes confessions confondues.
Est-ce qu'on le connaît?
Ce n'est pas
aujourd'hui,
une...
Alors, on donne la latitude aux uns aux autres de faire. Ça ne devait pas évoluer dans la pagaille. Aujourd'hui, si on avait vraiment, réellement cette loi d'encadrement, on aurait pu prendre les mesures. L'État aurait pu savoir, on a tel nombre de mosquées, et tel nombre de mosquées, tel nombre de kits qu'il faut amener. Par exemple, on ne peut pas venir dire, nous, on va les désinfecter.
Alors,
c'est irréaliste parfois, certaines
alors,
décisions.
Alors, Issa, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire appel peut-être à la responsabilité et à la solidarité du bon citoyen, notamment des bons volontaires qui peuvent accepter de mettre à la disposition de la mosquée du lieu de culte du quartier un dispositif de lavage ou pourquoi pas même des tapis.
C'est de ça que je parlais tout à l'heure.
Ou des masques.
C'est de ça que je parlais tout à
l'heure.
S'il
faut tout attendre de l'État, est-ce que nous pouvons nous en sortir?
Non, pas du tout. On ne peut pas tout attendre de l'État. C'est de ça que je parlais tout à l'heure quand je disais qu'il faut intensifier la communication pour stimuler la responsabilité des uns et des autres. Pour que les gens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. On ne peut pas attendre tout de l'État, mais sauf que l'État aussi ne devrait pas aller aussi dans la précipitation.
Alors,
on ne prend pas une décision comme ça quand on sait qu'on est trop limité à pouvoir. Aujourd'hui, on ne le souhaite pas. On a ouvert, le débat est clos, parce que les gens sont frustrés, les gens sont à couteau tiré pour dire que non, on veut nous empêcher notre bain de prière, on veut nous empêcher la pratique religieuse. Alors,
le gouvernement, dans son communiqué, rappelle qu'en cas de détérioration de la situation en lien avec la réouverture justement des lieux de culte, il se réserve le droit de reconsidérer cette décision. C'est-à-dire qu'il se réserve en cas d'une propagation vertigineuse du COVID-19, l'État pourrait revoir cette décision en réformant qu'en pensez-vous de cette mise en garde?
Mais c'est moi, je pense que l'État est dans ses droits pour le faire. Parce que regardez, vous avez vu rien que hier pour le cas du Gabon, quand la situation, malgré le déconfinement, la situation n'a pas pu s'arranger. Ils étaient obligés de reconfiner encore le grand Libreville et autres provinces. Parce que c'est ça qu'aujourd'hui, tout à l'heure...
Il y a toujours des risques, les déconfinements, les allègements.
Tout à l'heure, on parlait de la responsabilité des uns et des autres.
Et là,
les gens jouent leur partition dans la sensibilisation à ce que les gens respectent, si au moins il y a un dispositif au niveau de la mosquée, que les gens fassent de leur mieux pour au moins respecter le lavage des mains à l'eau,
le port de masque
et le port de masque.
Individuel.
Elal Suleiman Mahamadou, vous avez voulu ébaucher tout à l'heure cette question, notamment de la mise en garde du gouvernement qui se réserve le droit de reconsidérer sa décision.
Oui, je pense que c'est une stratégie de communication pour le gouvernement parce que, avec tout ce que cela suppose, ce que les gens ont vécu comme privation, le fait de leur rappeler que, en cas de réussite, on allait reconduire les mêmes mesures, c'est en fait une façon de mettre les gens devant leurs responsabilités, leur dire que jusqu'à présent, le péril est là, donc le danger est là, et par conséquent, le fait de prendre ces mesures ne signifie pas que nous sommes vraiment au bout de la catastrophe du danger. Donc, bref, je pense que ce message tend vraiment à dissuader les gens que, bon, on doit faire attention, on doit respecter donc les mesures. Ce n'est que provisoire et la vérité, c'est que quand on regarde certes les résultats donc, qui sont donnés au quotidien, on peut dire qu'effectivement la tendance est très bonne. Mais quand je regarde Zender et Agadez, ces derniers temps, je m'inquiète surtout pour Zender. Au regard de son voisinage avec le Nigeria, notamment Kano. Ou franchement, selon certaines informations, la situation est alarmante de l'autre côté.
Nous allons peut-être donner la parole à Maimouna si elle a un mot à ajouter par rapport à cette mise en garde du gouvernement.
Oui, c'est juste pour dire qu'ils ont intérêt, la population a intérêt aujourd'hui à respecter ces consignes. Parce qu'ils se sont battus, vous vous êtes battus pour la réouverture donc, des lieux de culte. Alors, donc, faites en sorte...
Que chaque personne soit responsable.
Oui, oui. Et je pense que quand un père de famille est responsable dans sa propre maison, le père de famille ne peut être que responsable également dans son lieu de culte. Donc, je pense qu'il n'y a pas des solutions. La seule solution, c'est la responsabilité.
De chacun.
Oui.
Alors, second sujet de ce forum de la presse, je le disais en début, le mercredi 13 mai dernier, le Niger célébrait la journée nationale de la femme nigérienne. Cette journée, décrétée depuis le 25 novembre 1992 au Niger, symbolise la marche donc, des femmes pour réclamer une plus grande représentativité au sein notamment de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine de 1991. La commémoration de cette journée offre l'occasion au pouvoir public, aux organisations féminines, et à la société civile, dans son ensemble, aux partenaires au développement, de réfléchir sur les préoccupations et les défis relatifs à la promotion de la femme nigérienne. Elhadj Suleiman Mahamadou, selon vous, de 1992 à ces jours, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est demeuré inchangé à propos de l'évolution de la condition de la femme nigérienne sur le plan politique, social et professionnel?
C'est devenu pratiquement un rituel. Donc, il faut sacrifier donc, au 13 mai pour sa symbolique, pour sa charge historique. Mais je constate que le défi reste réel. Il y a certes des progrès et aussi des femmes qui se battent pour inverser la tendance. Mais quand on considère la condition de la femme rurale, encore une fois, je ne voudrais pas dire que la femme urbaine elle est dans le bonheur, loin s'en faut. Il y a d'énormes défis pour la femme en général. Aujourd'hui, c'est la question du quota, mais je constate qu'il va falloir que les femmes se battent parce qu'en réalité, le quota pour une population qui constitue plus de 50%. Donc, vous voyez.
De quoi est-ce qu'on peut être fier de cette lutte qui a été un tournant?
Je constate qu'il faut être fier du cadre démocratique qui fait de la promotion des droits humains une exigence. Il y a quand même des avancées. Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas faire à l'endroit de la femme en termes de violation de ses droits. Quiconque oserait le faire de manière flagrante comme on le faisait avant, il est donc, il va être réprimé par la loi, il va effectivement être poursuivi. Il y a des structures donc des femmes ou bien des cadres démocratiques donc des ONG, des sociétés de l'homme en tout cas qui défendent les droits de la femme. Ça, c'est des actes incontestables. Par exemple, pour les violences faites aux femmes, avant dans nos sociétés, on voit comment les gens, pour un oui ou pour un non, publiquement, un mari peut être amené à tabasser sa femme. Franchement, je pense qu'il y a des actes incontestables, ne serait-ce que des aspects, en tout cas, respect des droits de la femme. De plus en plus, les femmes sont sensibilisées à connaître aussi leurs droits. L'autre défi, c'est l'émancipation économique de la femme. Et tel qu'elle l'a dit, tant qu'on ne t'envoie pas, tant qu'on... Vous regardez dans la pratique, une femme qui est économiquement en tout cas stable, relativement indépendante, elle est plus libre dans son foyer, dans la société. Donc on se rend compte que le vrai débat, c'est aussi la question de l'émancipation sur le plan économique. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question de la femme rurale. Quand vous allez au village, aujourd'hui encore, vous voyez comment la femme est soumise aux travaux.
Notamment pour les corvées d'eau, c'est
le
ça pour
les corvées d'eau, le bois, vous voyez. Bref, donc, vous voyez, c'est des défis énormes. Lorsque la femme n'a pas son temps pour vraiment se reposer, elle est du matin au soir, en tout cas en train d'épiler. Je pense que franchement, nous sommes pas dans les conditions de vie du 21e siècle, mais nous sommes vraiment au moyen-âge encore de notre histoire. Donc, par conséquent, il va falloir vraiment tenir compte de tous ces aspects pour parler vraiment de l'émancipation de la femme.
Bien, nous revenons au studio. Maïmouna Diadou, alors, mercredi, c'était votre journée nationale de la femme nigérienne. Mm-hmm. À votre avis, qu'est-ce qui a changé depuis lors, de 1992 à aujourd'hui? De quoi, en tant que femme, vous pouvez être fière? Et qu'est-ce qui, à votre avis, en tout cas, demeure un défi?
Si on regarde de 1991 à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Certes, on ne peut pas dire que tout est rose, mais quand même, il y a des défis à relever. Et quand on regarde depuis un certain temps, quand je regarde les fêtes de 13 mai, je me dis que l'accent est mis sur la femme rurale. L'accent est mis sur la femme rurale. À chaque édition, on essaie de penser, de solutionner les problèmes auxquels font face ces femmes rurales. Et parce que tout simplement, quand on regarde, quand on dit que la femme nigérienne a plus de 50% de la population, fait plus de 50% de la population, oui. La majorité, ce sont les femmes rurales. Ce n'est pas les femmes citadines aujourd'hui qui composent la masse.
C'est 50%.
La masse, ça vient de ces femmes rurales. Oui. Alors, il faut véritablement les appuyer. Il faut les aider. Bien que c'est vrai, il y a d'autres femmes aujourd'hui qui ont accès à l'eau potable, et elles ont accès aux centres de santé, mais ça reste encore parce que le Niger est vaste. Le Niger est vaste et petit à petit, peut-être que les décideurs vont aller... ça va évoluer du côté donc de ces femmes rurales. Et ensuite, il y a sur les acquis dont vous parlez. Il y a ce qu'on appelle l'autonomisation financière de la femme. Là aussi, les femmes, petit à petit, elles ont commencé à être financièrement, donc à être autonomes financièrement. Parce que quand on regarde ces femmes qui se battent chaque jour pour se lever, aller vers Katako ou bien dans les marchés, s'approvisionner, venir vendre et puis pour au moins avoir un petit équilibre du côté donc de la famille, soutenir au moins la famille, c'est déjà bon. Il y a également le quota. Je ne parle pas du quota parce que le quota, ce n'est pas la femme rurale aujourd'hui que ça concerne. Le quota que nous parlons, ça concerne seulement les femmes citadines. Il faut se dire la vérité.
Celles qui sont parties à l'école.
Celles qui sont parties à l'école aujourd'hui. Une femme, peut-être, qui se retrouve dans la campagne, est-ce que vous pouvez lui parler de quota? Non, mais ce qui n'a pas changé, c'est la mentalité des femmes.
Les femmes elles-mêmes.
Les femmes elles-mêmes, c'est leur
dans
mentalité. Parce qu'aujourd'hui, quand on me dit que c'est l'homme qui ne veut pas que la femme évolue, je me dis que non. L'homme n'est pas ennemi de la femme, mais c'est la femme en fait qui est ennemie de la femme. C'est les femmes
c'est
en fait qui ne sont
grand,
pas.
Que vous dites
oui,
là.
Quand je dis ça,
pourquoi
c'est
vous dites vous
oui
cela?
Parce que c'est les femmes qui ne sont pas soudées. Les femmes ne sont pas soudées. Aujourd'hui, quand vous regardez, une femme veut émerger. Au lieu qu'elle ait le soutien de ses autres sœurs, plutôt
c'est des adversaires qu'elle aura en face.
Elle a des adversaires en face d'elle. Elle peut pas. Elle ne peut pas réussir dans ce sens-là. Et quand vous regardez, on parle de l'émergence de la femme, on parle de la politique de la femme, on veut que la femme, participation politique, à chaque année, on nous dit participation politique de la femme. Mais la participation politique de la femme, ça va se faire comment? Comment est-ce que ça va se faire dans ce pays? Une participation politique. Quand on regarde, c'est vrai, de 1960 à aujourd'hui, quand on regarde l'état, on fait l'état des lieux de ces femmes, de ces nombres de femmes qui ont aujourd'hui leur propre parti politique. Je sais que parmi toutes ces femmes qui ont leur parti politique, il n'y a qu'une seule qui se bat. Et elle, finalement, aujourd'hui, on ne l'entend même pas. Vous savez de qui je parle?
Qui a été candidate au présidentiel.
Oui, la présidente. Donc, je me dis qu'on parle de participation politique, mais on n'appuie pas la femme à aller faire la participation politique.
Est-ce que, quelque part, ce n'est pas les hommes qui font les diviser pour mieux régner?
Les hommes, je vous ai dit, les hommes ne font pas diviser pour mieux régner, mais c'est les femmes qui ne sont pas soudées. Même en politique. Il ne faut pas se cacher derrière les hommes chaque fois pour dire que c'est les hommes. Non, les hommes n'ont rien à voir dedans. C'est les femmes.
Alors, l'un des problèmes aussi qu'on cite par rapport à cette question de la politique, la femme dans la politique, c'est que ces femmes, elles occupent toujours des rangs de second rang. Elles occupent rarement des postes de responsabilité. Elles sont souvent confinées à des rôles de mobilisation, de masse.
Pour avoir les postes de responsabilité, il faut se battre. Mais est-ce que la femme nigérienne aujourd'hui, est-ce qu'elle se bat réellement pour avoir ces postes de responsabilité? C'est ça le problème qu'il faut se demander. C'est bien beau de voir les femmes dans les institutions. C'est bien beau de voir les femmes.
Je vois Issa Madougou qui sourit depuis là, on va lui donner la parole.
C'est en fait la réalité qui est là. Mais on a ces femmes. Mais est-ce que ces femmes se battent au quotidien pour avoir ces postes de responsabilité?
Voici l'évolution, les avancées dont vous avez parlé des conditions de la femme. Voici l'avancée.
Apparemment, Mémouna n'a pas fini. On va lui donner juste quelques secondes, elle finit. Mémouna, oui, vas-y, rapidement.
Si je suis aujourd'hui fière d'une seule avancée, l'avancée, c'est quoi? C'est la scolarisation de la jeune fille.
Les tendances sont bonnes.
Là, la scolarisation de la jeune fille, je me dis que c'est un combat que tout le monde doit mener, que ça soit homme, que ça soit femme. Parce que la scolarisation, c'est à partir de cette scolarisation de la jeune fille qu'on peut atteindre.
Et vous pensez que les tendances ont changé depuis un certain moment?
Les tendances ont changé parce qu'aujourd'hui, les pratiques ne se font plus autour du mariage précoce, du mariage forcé.
C'est ça pour l'encadrement de la fille jusqu'à ce maintien dans l'école.
Voilà. Bien, maintenant, on va laisser Issa réagir qui, depuis là, est en train de... Oui, vas-y, Issa.
Ouais. Certainement.
Évidemment, parce que
allons-y.
Moi, je ne suis pas de nature à vous faire cadeau pour vous dire je ne célèbre pas cette journée parce que c'est une mascarade également pour les femmes intellectuelles. Excusez-moi, Mamouna, parce que c'est qu'on profite beaucoup de cette journée, certaines femmes citadines, pour venir faire des quêtes, des plaidoyers, soit que c'est au nom de la femme, mais il faut voir ce que la femme est en train de faire en milieu rural. Elles-mêmes, aujourd'hui, elles ont compris. Elles sont en train de développer leur propre capacité de résilience et d'autonomisation. Ce qu'elles sont en train de faire est extraordinaire. Il faut arpenter aujourd'hui dans les régions de Tawago. Moi, j'ai vu des femmes, c'est qu'elles n'ont même pas eu le soutien d'une ONG. Mais ce qu'elles sont en train de faire, c'est extraordinaire. Elles ont compris qu'elles doivent se battre. Elles ont compris qu'elles doivent envoyer leurs filles à l'école. Elles ont compris qu'elles doivent protéger leurs filles contre le mariage précoce.
Qu'elles ne doivent plus attendre l'aide qui ne vient pas.
Oui, qu'elles doivent les protéger contre le mariage précoce. Qu'elles doivent se battre pour les maintenir à l'école. Qu'elles puissent créer les conditions, qu'elles continuent d'étudier dans de meilleures conditions. Voilà ce qui est. Mais aujourd'hui, quand vous me demandez qu'est-ce qui a changé, mais voilà, c'est le changement. Mais
c'est quoi le changement, ça?
Elle est libre aujourd'hui de s'exprimer, de ses opinions.
La liberté d'expression.
Cette histoire de quota où on dit que l'État ne respecte pas. Mais l'État a fait déjà l'effort pour envoyer le texte à l'Assemblée pour voter.
Et ça a été voté.
Mais maintenant, c'est l'État qui devrait aussi courir derrière les femmes pour dire que venez, on va respecter le quota.
L'État aussi souvent a des difficultés à ce que cette loi soit déjà appliquée au niveau des postes électifs et des postes de nomination. À votre avis, c'est aux femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles auraient pu faire pour faire avancer les choses après que cette loi ait été adoptée?
Aux femmes de valoriser leurs compétences. Aux femmes d'être unies dans une même dynamique. Aux femmes d'être ces ambassadrices pour les droits de la femme. À ces femmes de montrer et de faire la promotion de leurs compétences qu'elles sont capables de le faire. Moi, je ne dis pas qu'elles ne sont pas capables. Je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font des choses extraordinaires, qui peuvent se battre côte à côte avec les hommes, cheminer dans la même dynamique ou même dans les mêmes exercices. Il y a des femmes qui le font, c'est extraordinaire, chouette. Mais aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'il y a aujourd'hui dans les formations politiques, mais imposez-vous dans les formations politiques. Est-ce que aujourd'hui, chacun cherche, c'est un combat perpétuel. Donc, est-ce que c'est où il faut se cacher derrière? Aujourd'hui, la femme, moi, quand la dernière fois, dans d'autres pays, elles sont passées directement à la parité.
C'est la parité, non?
Elles ont demandé la parité. Ou vous êtes dans des histoires de quotas. Le quota au Niger, toutes ces organisations-là, on a vu, chaque fois quand il y a occasion de faire le choix pour donner des noms, chaque fois elles sont à couteau tiré. Donc, il ne faut pas. Soit on accuse l'État de ne pas respecter.
C'est ça que je parlais tout à l'heure.
C'est pour cela, moi, je dis, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit honnête avec nous. Qu'on arrête,
alors aujourd'hui,
qu'on arrête d'accuser l'État de non-respect de la loi. Qu'on arrête d'accuser les hommes de ne pas pouvoir permettre à la femme de s'épanouir. On a créé toutes les conditions. C'est aux femmes maintenant de saisir cette opportunité et de montrer qu'elles sont capables de le faire.
Alors, Issa, quand même, on a vu qu'on en voit tous les jours qu'il y a parmi ces femmes des femmes extraordinaires qui se battent au quotidien. Des exemples, en tout cas, qu'on peut citer, en tout cas, à n'en pas finir, de femmes battantes.
J'ai commencé par là pour vous faire cas des femmes que j'ai vues dans la région de Tawa,
oui.
Dans la région de Maradi. Elles n'ont même pas bénéficié d'appui d'une ONG, mais elles sont en train de faire des activités génératrices.
Pour vous, c'est des exemples.
Ça montre la résilience de ces femmes à faire face maintenant aux vraies réalités de la vie.
Alors,
quand je vois des femmes aujourd'hui, sans pour autant, avant même l'adoption du décret, parce que c'est ça au Niger, l'opportunité de la femme, qu'il y a une loi aujourd'hui qui protège la jeune fille, la scolarisation, son maintien, qui la protège contre le mariage précoce. Avant même l'adoption de cette loi, moi j'ai vu des femmes dans des communautés rurales qui ont compris qu'aujourd'hui elles doivent se battre
pour maintenir leur fille à l'école,
les protéger contre le mariage précoce. Parce que quand une fille réussit dans la communauté, elle est moteur de développement, elle entraîne, elle est aussi vecteur de démutation.
Alors, Issa, nous allons.
Le seul acquis aujourd'hui, c'est véritablement la scolarisation de la jeune fille. Là, je suis d'accord.
À consolider.
Je suis d'accord sur
la,
ça.
La scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cette
importance. Là, il faut aussi féliciter le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a pris la loi.
Nous allons terminer sur le dernier sujet. C'est sur le volet sécuritaire, notamment. Je parlais tout à l'heure de trois villages situés dans la commune rurale d'Anzourou qui ont été attaqués. C'est dans la région de Tillabéri. Par des hommes armés non identifiés samedi 9 mai dernier, selon des informations relayées par la télévision nationale Télé-Sahel. Au moins 20 civils auraient perdu la vie et de nombreux blessés. Les assaillants au guidon de plusieurs motos, selon les témoins, ont également pillé une boutique avant de s'enfuir avec un important troupeau d'animaux. Elhaj Souleymane Mamadou, avez-vous d'autres compléments d'informations au sujet de cette attaque et comment expliquer cette mobilité et cette capacité de nuisance de groupes armés non étatiques dans cette zone, malgré la présence militaire?
Je constate tout simplement que c'est devenu plutôt la norme, à savoir que dans cette zone, et bien dans la région de Bifa, les terroristes, ou bien la région de Tawa également, qui l'a dérivé, les terroristes, et c'est ça justement la guerre asymétrique. C'est-à-dire que l'ennemi, il est éparpillé, il est caché, il essaie de surprendre les gens, il est dans sa nébuleuse, donc de temps en temps, il est souvent parmi les populations, avec les populations, d'où justement la nécessité d'une bonne collaboration des populations, justement, pour dénoncer ces terroristes, en tout cas souvent qui sont connus. Souvent, on comprend la peur des populations locales qui, quand elles dénoncent sont vraiment exposés.
C'est ça qui, sont, qui s'en suivent.
Alors absolument, l'État n'était pas toujours à côté. Je constate tout simplement que des efforts sont en train d'être faits et ça doit continuer parce que quand même, il faut le reconnaître, depuis cette rencontre du Pau qui a débouché sur le changement de tactique et de stratégie, on se rend compte véritablement qu'on est en train d'inverser la tendance. Certes, beaucoup reste à faire. Je pense que véritablement, on doit s'inspirer de l'exemple récent d'Idriss Déby. On a parlé sur les réseaux sociaux l'histoire du chef d'état-major actuel des femmes qui est allé sur le terrain à Diffa. Je pense que véritablement, pour en finir avec cette situation, il faut des actions fortes, des actions musclées.
Des forces armées nigériennes.
Leur administrer vraiment des réserves comme au début l'a fait à Boko Haram, comme nos FDS l'ont fait le lundi dans la région de Diffa, en tout cas à Boko Haram.
En tout cas, une soixantaine de
permis d'espérer. On constate que véritablement nos forces ont besoin de l'appui en termes de moyens, en termes d'armement, en tout cas de l'autorité politique. La coopération militaire est la bienvenue justement lorsqu'elle permet effectivement au FDS de triompher face à l'ennemi. Donc je constate que véritablement notre vœu c'est que véritablement qu'on puisse continuer l'offensive, qu'on puisse continuer à aller traquer ces gens-là, en tout cas, sans foi ni loi, en tout cas, qui permettent véritablement de...
Merci, nous avons compris, Alain Chuleman, nous allons revenir au studio. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Issa Madougou, par rapport à ces attaques, notamment à Tillabéri, et aussi à Diffa, où on a vu l'armée nigérienne, en tout cas, qui a fait une riposte, ayant permis de neutraliser, en tout cas, plus de 60 éléments de Boko Haram, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.
D'accord, on va aller un peu rapidement. Pour Diffa, d'abord, il faut féliciter les forces de défense et de sécurité et souhaiter prompt rétablissement aux blessés et paix aux âmes des disparus. Cela démontre qu'il suffit seulement de l'engagement et de donner les moyens nécessaires. On a toujours cette 20 armée qui peut faire le travail. Si on met les moyens, je suis sûr, parce que Boko Haram est vraiment en une période où la secte elle est affaiblie. Il suffit seulement maintenant qu'on mette, mais compte tenu un peu de la situation, on sait qu'aujourd'hui, nos pays se trouvent sur plusieurs fronts, sécuritaires, sanitaires. C'est pas du tout facile de conjuguer les efforts. Mais quand même, c'est bien. Il faut aller dans cette dynamique d'attaque. Il faut pas attendre.
Mais on a vu aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des offensives, les offensives ont toujours donné.
Je pense que ce qui est en train de se passer à Diffa mérite qu'on encourage une fois de plus, qu'on donne les moyens nécessaires à nos forces de défense et de sécurité. Maintenant, ce qui est en train de se passer dans la région de Tillabéri, je crois bien que c'est voilà une situation qui devrait nous interpeller.
Pourquoi?
Tous. Parce que c'est d'abord en pleine journée, dans un contexte d'état d'urgence où les motos
ne circulent pas.
Donc si les gens ont cette facilité de pouvoir circuler de village en village, puisqu'ils ont fait 3 villages dans la commune rurale de Anzourou, ils ont tué la même journée.
Oui.
Cette personne, ils tirent pratiquement sur tous ceux qui bougent.
Alors, en portant aussi des biens.
Ils ont pu traverser, regarder, avec du bétail. Pour aller jusqu'à là. On ne sait même pas là où, parce que les gens spéculent.
Hein. Oui, bien sûr.
D'autres parlent du Mali, qui sont partis au Mali. Mais c'est un peu inquiétant. Comment si des gens peuvent venir, alors que dans cette zone, on sait, même s'ils ne sont pas là pour cette mission, au niveau du barrage, on a à peu près 450 éléments des forces de défense et de sécurité. Même si leur mission est de protéger quand même les installations du barrage de Kandaji. Mais quand même, moi, je suppose que dans un environnement où il y a une interdiction. Quand même, si des gens peuvent circuler en moto, ce qui veut dire que c'est des suspects. Ce ne sont pas vraiment des gens normaux. Donc, il faut prendre des dispositions. Maintenant, moi, je pense qu'au-delà de ça aussi, il faut que les populations, ils ont collaboré. Même quand vous regardez ce qui s'est passé le 9 mai dernier, ils ont même détruit
l'antenne, le relais antenne des réseaux téléphoniques. Donc, c'est vrai que ça a été bien préparé. Moi, je pense qu'il faudrait un peu changer de paradigme dans ce...
En quoi faisant rapidement, oui,
en priorisant d'abord les patrouilles. Les patrouilles des forces de défense et de sécurité. Maintenant que les populations aussi puissent adopter des comportements tendant à faciliter la circulation de l'information dès que vous
êtes aux forces de défense présentes dans la zone. Voilà. Maïmouna Diado, nous terminons avec vous. Oui, quel est votre mot sur ces...
Oui, ce que je pourrais dire par rapport justement donc à la région de Tillabéri, nous savons que la région de Tillabéri, ça a toujours été ainsi, où on attendait l'ennemi. C'est pas là-bas que l'ennemi surgit, mais c'est dans d'autres conditions. Donc voilà, on se dit qu'aujourd'hui, trois villages en même temps, comme l'a dit Issa, et des individus qui circulent à moto, alors qu'on a l'état d'urgence dans cette région de Tillabéri, où il est interdit pratiquement de rouler ou de circuler à moto. Donc je me dis que si ces gens-là peuvent quitter de leur endroit pour venir attaquer trois villages en même temps, donc c'est risqué pour les autres villages aussi. Et ils sont venus dans leur objectif, c'est le ravitaillement. Parce que vous avez
en
vu...
En toute apparence.
À toute apparence, c'est ça. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de se nourrir aujourd'hui. Donc, il faut cibler des villages où ils pensent que c'est très facile de les attaquer. Et ensuite, il y a le troupeau.
Que faire dans ces genres de situations?
Donc, dans ces genres de situations, c'est vraiment véritablement de revoir la stratégie de lutte. La stratégie, le mécanisme de surveillance, là, doivent être revus, finalement. Mais... Parce que ces populations ont beaucoup enduré. Donc, je pense qu'il est temps aujourd'hui que et ces populations aussi et les FDS collaborent. C'est le seul moyen aujourd'hui de faire
la collaboration des forces de défense et de sécurité et les populations civiles.
Dans cette bande, je crois que dans cette bande de Anzourou, Dessa, Ayoro, avant d'arriver à Inates, il faut encore un nouveau poste d'un détachement de l'armée. Parce qu'avant d'arriver même dans la zone de Ayoro, là, entre Dessa et Ayoro, il faut qu'on crée un nouveau poste. Parce que cette zone est en train de devenir un no man's land. Malgré qu'il y a l'opération Al-Mahou de l'autre côté, on sent que les gens ont cette facilité de liberté de mouvement.
Merci.
Mais il faut les contrer. Parce que s'ils peuvent circuler librement, c'est qu'il y a des dangers.
Merci beaucoup, Issa. Nous sommes à la fin du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de nos confrères Elhadj Souleyman Mahamadou du journal en ligne Niger Inter, Issa Mor Madougou de la radio et télévision Ténéré et Memouna Diado de la télévision Tambara. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou. Pour ce forum, et le volet technique a été assuré par Hussein Issaka, la régie vidéo assurée par Al-Mustapha Ayouba. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15, samedi le forum en Hausa sur le mariage des enfants au Niger et dimanche le forum en Zarma sur la contribution des organisations féminines dans la lutte contre le Covid-19. Bonsoir.